France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La disparition d'un grand nom du cinéma français, Bertrand Blier, est mort hier soir à l'âge de 85 ans. Son entourage l'a annoncé ce matin. Il a fait tourner les plus grands acteurs français. Ses films, Les Valseuses ou Tenues de soirée, ont marqué le public et il avait encore des projets.
J'aime le cinéma, j'ai voulu en faire, j'en ai fait, ça s'est fait. Et le reste est à faire encore, il y a encore... J'ai dans mes cartons, j'ai au moins 15 sujets de pièces de théâtre, j'ai plus un ou deux très gros romans, donc je n'arriverai pas à faire tout ça. L'espérance de vie a beau augmenter, il y a tout de même un moment, on est gâteux. Quoi.
Voilà. Nous retracerons sa carrière avec en fil rouge son humour et son art du dialogue. Nous nous demanderons aussi quelle sera la postérité de son cinéma, critiqué aussi aujourd'hui pour l'image qu'il renvoie des femmes. À suivre encore, l'Amérique et le monde sous Donald Trump, immigration, pétrole, santé, ce que vont changer ces annonces pour les Américains et les autres. Nous serons en direct de Washington. Le SAMU qui peine à répondre à tous les appels au 15. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
On a le dernier bilan disponible, c'est celui de 2022.
Oui, et seuls 8 appels sur 10 au SAMU sont décrochés en moins d'une minute. Une forte augmentation des appels au 15, un effet de l'épidémie de Covid, un effet aussi de la régulation de l'accès aux urgences en 2022.
A tout de suite pour vos précisions. Le narcotrafic a fait deux fois moins de morts en 2024 à Marseille. Nous serons sur place. Des nouvelles de notre navigatrice Violette d'Orange, également sur le Vendée Globe. Elle a dû à nouveau monter au mât ces dernières heures. À partir de 13h30, vous avez prévu d'acheter ou de vendre votre logement cette année ? Appelez-nous, le PDG d'Orpi France est notre invité, plus de 1200 agences immobilières dans le pays, 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France, les animaux de compagnie au bureau, c'est tendance, récit de Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Christelle Reboul nous fait écouter Alain Bachung. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est le film qui a révélé Bertrand Blier au grand public. Il l'a écrit et réalisé. Printemps 1974, Les Valseuses sort. 6 ans après mai 68, Gérard Depardieu et Patrick Devers y jouent le rôle de deux loubards qui cassent, jactent, baisent et agressent, y compris des femmes. Le film est un choc et un carton dans la France de Pompidou.
On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Extrait des Valseuses, l'un des nombreux films de Bertrand Blier. J'ajoute Tenue de soirée avec Michel Blanc ou encore Buffet froid. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Entre autres, Bertrand Blier vient de disparaître à l'âge de 85 ans. Il aura marqué le cinéma des années 70 et 80.
Oui, à cette époque, les propositions cinématographiques signées Bertrand Blier rencontrent un public nombreux. Plus de 5 millions de spectateurs pour Les Valseuses que vous évoquiez à l'instant. Puis des succès critiques ou publics ou les deux avec Buffet froid, La femme de mon pote, Tenue de soirée et Trop belle pour toi, des films souvent drôles, souvent très masculins aussi, et une façon bien à lui de croquer son époque et ses travers en s'appuyant sur des dialogues puissants et savoureux. Et puis bien sûr, Bertrand Blier aimait les acteurs et il a donné certains de leurs plus beaux rôles à Depardieu, Devers, Coluche, Michel Blanc ou Jean-Pierre Marielle. Les acteurs, il en parlait sur Inter en 2019 dans Boomerang avec Augustin Trapenard.
L'acteur, c'est la vie, ce sont des gens qui nous font regarder la vie.
Mais qu'est-ce qui fait un bon acteur ?
Le bon acteur, c'est celui qui donne envie de rire.
Gérard Depardieu, par exemple, qui vous donne envie
Tous
de rire.
Tous les grands acteurs donnent envie de rire.
Et comment ne pas aimer les acteurs quand on est le fils du grand Bernard Blier ? Le comédien fétiche de Michel Audiard était d'ailleurs très fier de son fils, comme on peut l'entendre dans cette archive de 1991.
Il a fait des études absolument normales, meilleures que les miennes en tout cas. Et puis un jour, il a décidé de faire du cinéma, d'écrire, et j'étais ravi.
Mais après les cartons des années 70, 80 et 90, la fin de sa carrière cinéma a été plus compliquée, que ce soit auprès de la presse ou au box-office. Mais il y a eu de beaux succès sur les planches. Et puis, fidèle de son copain Depardieu jusqu'au bout, Bertrand Blier était signataire de la tribune de soutien controversée. C'était fin 2023.
Merci Alexis Demeyer. J'ajoute la la réaction de la ministre de la Culture, Rachida Dati, ce matin. J'apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Bertrand Blier. Il était un dialoguiste de génie dans la lignée des Prévert et des Audiard. Dans des films qui s'inscrivaient dans leur époque, il avait offert des rôles iconiques au plus grand. Fin de citation. Bonjour Laurent Delmas.
Bonjour Jérôme.
Monsieur Cinéma à France Inter, on vous retrouve tous les samedis matins dans On aura tout vu. Ce qu'on retient d'abord de Bertrand Blier, Laurent, fils de Bernard, bien sûr, immense acteur, c'est peut-être cette langue, ces dialogues.
Bah oui, on va pas faire de psychanalyse de bazar, mais quand on est le fils de Bertrand, de Bernard Blier, je vais y arriver, et qui a si bien parlé le Audiard, je pense qu'il y a un challenge, un défi à relever comme fils, et on se dit, je vais essayer de faire aussi bien, de créer une autre langue que le Audiard, et ça va s'appeler le Blier. De ce point de vue-là, je crois qu'il a assez réussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une truculence, il y a une verve, il y a une capacité dire les choses de façon incroyable que Blier a parfaitement cultivé et qu'il a su mettre dans la bouche, Alexis nous le disait, de très très grands interprètes, de très grands acteurs. Donc de ce point de vue-là, je crois que la réussite est totale dans cette filiation de grands écrivains de cinéma, on va dire, du cinéma français, avec aussi, permettez-moi juste de le dire, un film comme Buffet froid, dont on n'a pas encore parlé, mais qui constitue, à mes yeux, une sorte de trilogie, drôle de drame, Buffet froid, coup de torchon de Bertrand Tavernier. Il y a trois films ovnis du cinéma français, on n'a jamais fait mieux, on n'a jamais fait autrement pour dire le burlesque morbide. Et ça, il faut vraiment donner acte de cette réussite à Blier.
Ça veut dire la prise de risque. Le cinéma, on rappelle toujours, Laurent Delmas, que ça coûte extrêmement cher.
Oui.
Pour un réalisateur, il joue sa vie quand même. Prise de risque, ça aussi, c'est un fil rouge de la carrière de Bertrand Blier.
Oui, je crois qu'il était dans une sorte d'intranquillité permanente, sous une bonhomie, une truculence qui faisait passer beaucoup de choses. Mais je crois que c'est un immense mélancolique. Blier, c'est évident. Buffet froid le montre. C'est quelqu'un. La mort est toujours dans son dos, hein, de toute évidence. Il y a Le bruit des glaçons, qui est là-dessus, sur le cancer, du Pontel et du Jardin. Donc, oui, il y a une vraie prise de risque parce qu'il y a un vrai souci, certes, de faire rire, comme il vient de le dire, mais de faire rire peut-être intelligemment et avec parfois la malice du désespoir.
De faire rire de manière grinçante, voilà. En provoquant, voire même au-delà. J'ai ouvert cet hommage par l'extrait des Valseuses. 50 ans au printemps 2024, c'était il y a quelques mois, il n'y a pas eu d'hommage. On en a très peu parlé. Au-delà même des plaintes qui visent l'un des acteurs principaux de ce film, Gérard Depardieu, est-ce qu'il y a aujourd'hui un malaise autour de ce film, autour du cinéma de Bertrand Blier pour la place qu'il fait aux femmes, pour cette scène aussi d'agression sexuelle, hein, qu'il y a dans le film ?
Il y a malaise, c'est évident, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot possible, et il y a une difficulté peut-être même à regarder ce film maintenant. En tous les cas, il faut le prendre avec énormément de pincettes, évidemment. Moi, je ne suis pas du tout pour l'invisibilisation des films, mais il faut dire quand même qu'il y a des problèmes avec ce film. Brigitte Fossé, l'une des actrices, en a d'ailleurs parlé ouvertement. Et puis, il y a aussi dans la filmographie de Blier des films comme Calmos, dont le moins qu'on puisse dire et qui sont difficilement regardables tant ils sont misogynes et d'une misogynie crasse. Lui-même le disait d'ailleurs, lui-même avait fini par le reconnaître. Donc oui, il y a un comportement à l'égard des femmes, des personnages féminins, de la féminité, qui est un vrai, vrai souci. Une masculinité qu'on pourrait dire toxique à certains égards. Voilà, je pense qu'il faut manier les choses avec prudence et complexité, mais Blier n'a pas été... disons, épargné par un certain nombre de travers des hommes de son époque, on va dire. Voilà, il faut aussi replacer toujours les choses dans un contexte.
1974, j'ai pour la sortie des Valseuses. Merci Laurent Delmas d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. On vous retrouve évidemment samedi matin pour évoquer
la
carrière de Bertrand Blier. Ce sera comme tous les samedis aux côtés de Christine Masson.
Merci.
Il est désormais à la tête de la première puissance économique et de la première armée du monde. Lors de son investiture hier, Donald Trump a donc autant parlé au monde qu'aux Américains et les réactions n'ont pas tardé. Un acte d'arrogance pour Cuba qui sera bientôt replacé par Trump sur la liste des États soutenant le terrorisme. Le Panama, par la voix de son président, affirme que le canal continuera de lui appartenir. Trump veut le récupérer. La Chine, elle, se dit inquiète de la nouvelle sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Elle dit qu'aucun pays ne peut rester insensible au changement climatique. Fin de citation. Et l'Europe ? dans tout cela. Nous allons leur imposer des droits de douane ou les obliger à acheter notre pétrole et notre gaz. Voilà la menace proférée hier à l'encontre des Européens par Donald Trump. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était restée silencieuse ces dernières semaines face aux menaces. Elle s'est exprimée ce matin au Forum économique de Davos.
Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres. Nous respectons les règles. Nous voulons davantage de coopération avec tous ceux qui sont ouverts à ça. Et cela inclut bien sûr nos plus proches partenaires, les États-Unis. Aucune des économies dans le monde ne sont aussi intégrées que les nôtres. Il y a beaucoup en jeu des deux côtés. Donc, notre première priorité sera d'engager rapidement des discussions d'intérêt commun et d'être prêts à négocier. Nous serons pragmatiques, mais nous nous en tiendrons toujours à nos principes. Nous protégerons nos intérêts et défendrons nos valeurs, parce que c'est ça, la méthode européenne.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec Mathilde Dehimy. Parmi les images de la nuit dernière qui font beaucoup réagir, il y a celle du milliardaire américain Elon Musk. Le propriétaire de Tesla, nouveau ministre, a pris la parole sur scène dans la salle de spectacle à Washington où étaient réunis près de 20 000 partisans de Trump. Et il a conclu sa prise de parole en se frappant la poitrine avec la main avant de tendre le bras. Paume ouverte, salut qualifié par beaucoup d'observateurs de salut nazi. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous êtes à Washington pour Inter, il est chez vous un peu plus de 7h du matin. Ce geste est commenté dans la presse américaine, mais également sur les réseaux sociaux.
Commenter, discuter, contester et dénoncer. Car ici, chaque observateur a son interprétation. Salut romain, salut nazi ou simple démonstration de joie. Dans le New York Times, la Ligue anti-diffamation, qui s'est plusieurs fois opposée au milliardaire, prend la défense d'Elon Musk, qui voyant un geste maladroit dans un moment d'enthousiasme à la tribune. Geste que les milieux de l'extrême droite américaine s'empressent de saluer. Andrew Torba, fondateur d'un réseau social conspirationniste, se réjouit, et je le cite, des choses incroyables qui déjà se produisent. Quand la fondation Blue Card soutient des survivants de l'Holocauste, se dit-elle profondément troublée par ce symbole de haine, de violence et de génocide. Alors, si ce geste, Jérôme, déclenche tant de réactions, eh bien, c'est que le milliardaire a largement affiché ces derniers mois ses sympathies pour les mouvements d'extrême droite européens en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et qu'il n'en est pas loin s'en faut à sa première provocation. Elon Musk a finalement réagi cette nuit sur sa plateforme X, appelant ses détracteurs à trouver de meilleurs coups tordus, mais son geste n'a pas fini de faire réagir ici, où ce n'est encore que le petit matin.
Faustine Calmel en direct de Washington avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Parmi les dossiers dont vont devoir s'emparer les Européens, on en parlait il y a un instant, il y a la santé. Donald Trump avait annoncé la couleur en nommant l'antivax Robert Kennedy Jr. à la tête de la santé américaine. Eh bien, il a annoncé hier la sortie de son pays, de l'OMS, l'Organisation des Nations Unies chargée de promouvoir la santé à l'échelle de la planète. Argument de Trump, les États-Unis versent trop d'argent et l'OMS a mal géré le Covid. Jérémy Lanche est à Genève pour Inter, Genève, le siège de l'OMS.
Le nouveau décret demande aux agences fédérales de suspendre le transfert de tout fonds, soutien ou ressources à l'OMS au profit de partenaires américains ou internationaux jugés crédibles par Washington. Concrètement, ça veut dire que l'OMS va devoir se passer de près de 18% de son budget de 6,5 milliards de dollars environ. C'est énorme, mais ce n'est pas une surprise. Depuis le premier mandat Trump, l'OMS savait à quoi s'en tenir. Le porte-parole de l'agence, Tarek Jazarevich, regrette la décision de Washington.
Depuis 70 ans, l'OMS et les États-Unis ont sauvé un nombre incalculable de vies. Ensemble, nous avons éradiqué la variole. Ensemble, nous avons aussi quasiment éradiqué la polio. Nous espérons que les États-Unis vont revenir sur leur décision de quitter l'OMS.
L'OMS a entrepris un vaste mouvement de réforme pour diversifier son financement, mais la dépendance américaine est encore trop forte, surtout au regard de la contribution relativement modeste de la Chine. C'est la raison officielle de la colère de Donald Trump contre l'OMS. Officieusement, il est aussi convaincu que la gestion de la pandémie de Covid par l'agence lui a coûté sa réélection en 2020. Le paradoxe, c'est qu'en cas de nouvelle pandémie, eh bien les États-Unis se priveraient d'un accès privilégié aux données de surveillance épidémique de l'OMS. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
Sortir de l'OMS, c'est une rupture avec les choix de l'ancien président américain Joe Biden. En revanche, pour ce qui est de la production de pétrole et de gaz, là c'est plutôt une accélération. En 2023, les États-Unis avaient produit plus de pétrole brut qu'aucun pays ne l'avait jamais fait. Près de 13 millions de barils par jour. Joe Biden avait alors encouragé les grandes compagnies américaines à le faire. Trump promet donc qu'il fera encore plus. Le pourra-t-il et quel sera l'effet sur les prix mondiaux? Réponse d'Edouard Lotz, analyste au cabinet de conseil Omneji.
Avec un slogan comme « forêt à tout va », on peut s'attendre à ce que ça fasse baisser les prix. Il n'y aura pas forcément l'effet escompté parce que c'est des entreprises qui produisent aux États-Unis, hein, c'est pas l'État. Donc ça se fera selon les conditions du marché. Même si Donald Trump le souhaite, enfin, il ne pourra pas forcer à ce que la production n'augmente non plus de manière fantastique, sachant qu'elle est déjà à un niveau très élevé. Les États-Unis n'ont jamais autant produit de pétrole que pendant les 4 dernières années. Donc là, ils sont au plus haut historique dans leur production. Elle devrait quand même augmenter en 2025, mais ça, c'était déjà prévu. Trump le mettra sûrement à son crédit si ça se produit, mais c'est pas avec ses mesures à lui.
Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ce que le prix du pétrole reste durablement bas?
Trump, si il empêche certains pays producteurs de livrer leurs barils, le Venezuela par exemple, l'Iran ou peut-être la Russie aussi, ça va également réduire l'offre mondiale. Donc ça pourrait, disons, ne pas forcément avoir l'effet escompté. Dans tous les cas, on devra quand même continuer d'importer du pétrole, du gaz, parce qu'on est toujours dépendant des énergies fossiles.
Le spécialiste des coûts de l'énergie, Edouard Lotz, au téléphone de Delphine Simon. Là aussi, on s'interroge sur l'application de ces annonces. Concernant l'immigration, le sujet numéro un de la campagne de Donald Trump, le voilà qui désormais décrète l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, ainsi que la fin du droit du sol automatique pour les enfants de migrants clandestins qui sont arrivés aux États-Unis. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
On vous retrouve aussi en direct de Washington. Isabelle, signer un décret ne va pas suffire?
Non, ça ne va pas suffire parce que ce droit du sol, il est garanti par le 14e amendement de la Constitution. Vous le disiez, toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis sont citoyennes américaines. Mais ce n'est pas le genre de texte qu'un président peut modifier par un simple décret. Pour ça, il faut passer par des procédures très complexes d'amendements constitutionnels. Donc ça ne permettra pas à Donald Trump d'aller aussi vite qu'il le voudrait, d'autant que certains États démocrates sont prêts à se lancer dans de longues batailles judiciaires. Par exemple, la Californie a mis de côté l'an dernier 25 millions de dollars rien que pour financer d'éventuels procès.
C'est un peu la même chose pour expulser, et je cite Donald Trump, des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent. Avec quels moyens comptent-ils le faire?
Alors, je vous donne un autre exemple. Fin novembre, le conseil municipal de Los Angeles, cette fois, a adopté un décret qui dit que la ville n'a pas le droit d'utiliser sa police municipale pour faire appliquer une loi fédérale sur l'immigration. Dans les faits, c'était déjà le cas, mais l'idée, c'était d'envoyer un message politique à Washington. Nous, on ne collaborera pas. Donc, en représailles, l'administration Trump, elle a menacé de supprimer les aides fédérales accordées à ces villes rebelles, ces villes sanctuaires. Mais déjà, sous son premier mandat, ça n'avait pas marché. Chicago et San Francisco, entre autres, étaient allés au tribunal et elles avaient gagné. Tout ça n'est pas qu'une décision humaniste, bien sûr, parce que la main-d'œuvre étrangère illégale est indispensable à certains secteurs de l'économie américaine. Je vous cite les chiffres de l'Institut des politiques migratoires. Plus d'1,5 million de clandestins travaillent dans le seul secteur de la construction.
Merci Isabelle Labéry pour ces explications. En direct de Washington avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Au sujet du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le nouveau président américain a dit ses doutes ce matin sur sa pérennité. Je ne suis pas confiant, dit-il, alors que les libérations d'otages dans le cadre de cet accord vont se poursuivre. 4 otages israéliennes seront libérées samedi, annonce ce matin le mouvement islamiste Hamas, contre la libération par les Israéliens d'un deuxième groupe de prisonniers palestiniens, des Israéliens qui ont déclenché ce matin en Cisjordanie, donc dans un autre territoire que Gaza, en Cisjordanie, à Jenin. Précisément, l'armée israélienne a déclenché ce matin une opération militaire, je cite, pour éradiquer le terrorisme.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Le trafic de drogue tue moins à Marseille. C'est le constat qu'ont fait ce matin les autorités par la voix du préfet de police et du procureur de la République. Dans le détail, 49 morts en 2023, 24 l'an dernier. Voilà pour les chiffres bruts. Une baisse liée à la fin d'une guerre, en fait, entre deux clans du narcotrafic, mais qui est due aussi, Mathilde Vinceneux, à l'action des autorités.
Le clan de la Dezen Mafia a gagné la guerre sanglante qu'il opposait au clan Yoda, ce qui a mécaniquement fait baisser la spirale meurtrière à Marseille. Mais cette baisse des règlements de compte est aussi liée à la lutte acharnée des enquêteurs et des magistrats contre le narcotrafic. Le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne.
On a mis beaucoup de moyens sur l'interpellation avec des commandos de tueurs. Mécaniquement, ça va faire baisser la pression. Il y a eu un certain nombre de règlements de compte qui ont été déjoués. Puis un dernier élément, nous avions constaté qu'un certain nombre d'assassinats étaient commandités depuis la prison et on a regroupé un certain nombre de criminels, notamment au quartier d'isolement des Baumettes, avec un régime pénitentiaire très suivi. Et là aussi, mécaniquement, on a senti la baisse des règlements de compte.
Mais le procureur continue d'alerter sur le rajeunissement des auteurs de narcomicides. 3 mineurs de moins de 16 ans seront jugés cette année pour leur participation à des faits en lien avec des règlements de compte. Le préfet de police indique de son côté que les opérations de pilonnage pour harceler et asphyxier les points de deal portent leurs fruits. Leur nombre a diminué de moitié. Il en reste une soixantaine actifs à Marseille.
Explication Mathilde Vinceneux, notre correspondante à Marseille. C'est l'un des sujets soulevés par le procès des viols de Mazan. La soumission chimique à laquelle a été soumise Gisèle Pellicot. Ce soir est diffusée sur France 2 une enquête, un documentaire consacré à la soumission chimique et qui précisément a été réalisé par la fille de Gisèle Pellicot. Il se trouve que les chiffres de signalement de soumission chimique sont en train d'exploser. En France, on est passé de 539 cas en 2020 à près de 1300 cas en 2022 et les chiffres sont probablement sous-estimés, comme l'a constaté Julien Morcelli dans les hôpitaux de la Vienne. Les soignants observent en ce moment une hausse des cas suspects.
Pour Olivier Mimoz, le chef des urgences des hôpitaux de la Vienne, c'est une évidence.
Il y a une demande de plus en plus fréquente, plutôt de patientes, hein, puisque c'est beaucoup de femmes, qui viennent en disant « je pense avoir été victime d'une soumission chimique, peut-être même d'un viol, hein, parce qu'elles se plaignent de douleurs au niveau des parties intimes. » À Poitiers, on en a pratiquement toutes les semaines.
Et dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre.
On va proposer à la patiente de faire d'abord des prélèvements pour rechercher des éventuels toxiques.
Les prélèvements sanguins permettent de détecter des substances chimiques jusqu'à 48 heures après les faits. Les analyses urinaires peuvent remonter à quelques jours et les prélèvements capillaires à plusieurs semaines, mais certains patients refusent tout simplement ces prélèvements.
Parce que parfois, il y a effectivement le déni de ne pas vouloir avoir été agressé, ou alors qu'elle n'ose pas, qu'elle a honte peut-être aussi de venir nous voir, parce que se dire qu'on a peut-être été victime d'un viol, c'est pas toujours facile de l'exprimer, c'est peut-être aussi pas facile de l'annoncer à sa famille.
Alors Olivier Mimoz tient à adresser un message.
Dès lors qu'il y a une procédure de ce type-là, il y a un secret médical qui s'impose, hein, qui va protéger la victime. Et donc on va tout faire pour d'une part faire un diagnostic, mais aussi de ne pas l'annoncer à d'autres personnes que la victime pour que cette victime soit protégée et que si elle ne souhaite pas que ça se sache, et bien personne ne le sait.
En cas de doute, les victimes potentielles ne doivent pas hésiter à se présenter aux urgences ou à composer le 15 pour être accompagnées.
Un reportage ici Poitou. Là encore, c'est un débat qui a été lancé par le procès des viols de Mazan. Faut-il inscrire dans la loi la notion de consentement? Les députés Véronique Ruoton et Marie-Charlotte Garin présentent aujourd'hui un projet de réforme qui aboutira bientôt à une proposition de loi pour inscrire cette notion de consentement dans la loi, une grande avancée, mais aussi une source d'inquiétude, y compris dans les rangs de certaines associations féministes qui craignent que cette inscription se retourne contre les femmes qui portent plainte. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Jérôme.
Tout cela par un renversement de la charge de la preuve.
Oui, c'est effectivement un risque majeur avec un texte qui obligerait les parties à porter les preuves du consentement ou du non-consentement et de s'en tenir là. Alors dans leur projet, les députés écartent cette difficulté en indiquant que les enquêteurs savent déjà analyser le comportement de la plaignante et son attitude avant, pendant et après l'acte, mais qu'il faudra davantage investiguer sur la façon dont le mise en cause se sera assuré du consentement de la plaignante, assurent les députés. Pas question non plus d'exiger un contrat, écarte-t-elle. L'objectif n'est pas de réguler les relations sexuelles, mais de bien faire comprendre les notions du consentement, le respect de l'autre et la réciprocité dans la volonté entre les partenaires. En clair, l'inscription du consentement juridiquement ne changera rien, mais il pourrait créer un électrochoc, une prise de conscience, y compris au sein des services d'enquête et de la magistrature, pour ne pas s'en tenir aux éléments factuels apportés par le mis en cause ou par la plaignante et aller explorer le contexte général dans lequel l'acte a été commis.
Merci Jean-Philippe Degnaud pour ces explications. Le SAMU, les patients sont invités à appeler le 15 quand ils veulent avoir accès aux services médicaux d'urgence. Le SAMU a-t-il réussi à faire face à ces nouveaux appels ? La direction statistique du ministère de la Santé nous livre le résultat de ces statistiques. La dernière année dont on dispose, c'est l'année 2022. Et cette année-là, seuls 8 appels sur 10 ont été répondus en moins d'une minute. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
La situation s'est en fait dégradée cette année-là, 2022. C'est aussi une conséquence de l'épidémie de Covid.
Oui, c'est un des enseignements de ce bilan de l'adresse pour 2022. 88% des appels au 15 ont été décrochés. 80%, vous le disiez, en moins d'une minute, c'était 85% un an plus tôt, une dégradation. Et si les régulateurs n'arrivent pas à répondre à tous, c'est que les appels ont fortement augmenté, plus de 20 millions en 2022, contre 14 millions 8 ans plus tôt. La note de l'adresse évoque un manque de personnel pour répondre à tous. La direction identifie deux facteurs pour expliquer cette hausse des appels au 15. D'abord, tout simplement, la difficulté à trouver un médecin en ville, ou d'ailleurs plutôt à la campagne. Et évidemment, la crise Covid, la consigne de ne pas se rendre aux urgences, mais d'appeler en priorité le SAMU a eu un effet. 2022, c'est aussi l'année où se sont appliquées les mesures de François Braun, l'ancien ministre de la Santé, pour réguler l'accès aux urgences avec un appel préalable au 15. Enfin, tous les départements n'ont pas recours de la même manière au 15, avec plus d'appels dans les zones où la population est âgée, socialement défavorisée et où l'accès aux médecins généralistes est difficile.
Merci Rémi Brancato.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
Vous l'avez peut-être oublié, mais eux ne l'ont pas oublié. Le Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, se poursuit pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint les Sables d'Olonne. Charlie Dalin, Johan Richaud et Sébastien Simon, ça c'est pour le podium. Jérémy Bayou est bien parti pour être le quatrième. Il a pris ses distances ces dernières heures devant Sam Goodchild, victime d'une avarie de grand voile. Et puis plus loin derrière, dans le sud de l'océan Atlantique, on retrouve notre navigatrice Violette d'Orange qui accumule les pépins ces derniers jours et elle a pu nous envoyer des nouvelles ces dernières heures.
Hello France Inter, c'est Violette sur le tour du monde. Bon, ces derniers jours, il m'est arrivé quelques galères. Ma grand voile est tombée jusqu'en bas et donc je me suis retrouvée à devoir monter à nouveau dans le mât. Il y avait 2 mètres de vagues, je me suis cognée de partout. J'ai eu peur parce que je me sentais en danger, j'ai cru que j'allais me casser un bras à plusieurs reprises. Mais j'ai réussi à monter tout en haut, j'ai récupéré la pièce. Je suis redescendue, j'ai bricolé la pièce, j'ai réinstallé le tout. Et après une journée sans manger, sans dormir, sans vraiment prendre soin de moi et en bricolant, en donnant toute ma vie, j'ai pu renvoyer enfin ma grand voile le soir. J'ai crié de soulagement, j'ai crié, j'ai pleuré pour faire sortir toute la tension que j'avais ressentie pendant toute cette journée. Encore aujourd'hui, j'ai un peu mal partout, j'ai des bleus... un peu sur toutes les jambes, sur les bras. J'ai aussi un petit peu mal aux genoux. Mais ça va de mieux en mieux, je récupère et les conditions se calment et deviennent de plus en plus sympas. Ça va me permettre de me reposer. Allez, à bientôt.
À bientôt, Violette, sur l'antenne de France Inter. Elle est 28e sur 34 navigateurs qui composent cette flotte Violette d'Orange, attendue début février au Sable d'Olonne, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, le PDG d'Orpi France est avec nous. On parle de la situation du marché de l'immobilier, volume de vente, prix, taux d'intérêt, de la difficulté aussi de trouver des locations. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton. Nous sommes avec des collégiens privés de portables à l'école. Cette semaine, ils ne sont pas punis. Ils sont en pause numérique, tout simplement. On va les retrouver dans le département de la Marne. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit du journal Ouest France, accompagné, comme tous les mardis, de Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien Jérôme, de Rennes en Ille-et-Vilaine à Paris, en passant par Vingles dans le Pas-de-Calais, on parlera des animaux qui suivent leur maître et leur maîtresse jusqu'au travail.
Et avec vous, Frédéric, sans animaux, une comédienne.
J'accompagne Cyril Petit déjà, c'est pas mal.
Mais il vous accompagne aussi, vous êtes un duo.
La comédienne Christelle Reboul sera avec nous tout à l'heure, visage familier des amateurs de séries télé. Elle est actuellement sur scène au Théâtre Montparnasse et avec elle, c'est une chanson d'Alain Bachung que nous écouterons, sa version de Suzanne de Léonard Cohen. Une chanson liée à un souvenir très intime pour Christelle Reboul.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Après Dieu de Richard Malka. Au cours d'une nuit passée dans la crypte du Panthéon, le célèbre avocat entame un dialogue imaginaire avec Voltaire, ardent défenseur de la liberté. S'ensuit un livre puissant, personnel, véritable hommage à l'esprit des Lumières. Après Dieu de Richard Malka, aux éditions Stock, collection Manuit au musée.
Bienvenue chez Écoutez Voir.
Et là, vous entendez mieux?
Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition,
mutualiste.
Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée assez calme avant le retour de la pluie, ce sera par l'ouest.
Oui, alors autour de la Méditerranée jusqu'au sud du Massif central, c'est encore encombré avec quelques averses, un vent de sud-est marqué. Et puis ailleurs, on a de bons moments de soleil qui reviennent, les grisailles se morcellent le plus souvent. C'est parfois difficile tout de même du nord-ouest au nord de la Seine, et puis ça reste gris toute la journée vers le nord de la Lorraine, l'Alsace, le Val-de-Saône. De la Bretagne au sud-ouest, là c'est un voile nuageux de plus en plus épais avec quelques ondées, avant les pluies attendues pour la soirée. Elles traverseront le pays cette nuit et s'attarderont demain matin sur l'Est. Prudence sur les routes, il y a un fort risque de verglas sur le nord-est d'ailleurs cette nuit et demain matin. Et puis les températures, elles sont en hausse, alors comptez 4 à 12 degrés du nord au sud cet après-midi. Moins évidemment sous les grisailles tenaces, hein, 0 à 2 degrés, mais jusqu'à 14 à 16 près des Pyrénées et en Méditerranée.
Température en hausse donc jusqu'à la fin de la semaine, hein,
oui.
Je crois, Elodie Calac. Merci Elodie, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Guillaume Martineau.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Orpi France, coopérative d'agences immobilières qui regroupe 1250 agences en France. Vous-même en possédez deux. Ça se passe à Cabreton, dans le département des Landes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la situation de l'immobilier dans notre pays. Après une année noire, va-t-on vers un rebond à la fois pour l'achat, mais aussi pour la location? 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous passez également via l'application France Inter. J'ai dit année noire 2024. Guillaume Martineau, c'est vraiment le mot?
Une année noire avec une éclaircie tout de même au dernier trimestre quand même, octobre-novembre.
À la toute fin.
Voilà, donc c'est une année mouvementée mais qui se termine mieux qu'elle n'a commencé.
Qui s'est traduite comment dans les chiffres pour vous, par des fermetures d'agences?
Oui, alors ça on a eu, depuis deux ans, on a vécu une centaine de fermetures d'agences parce qu'on est touché comme tout le monde évidemment. Mais on a aussi su combattre ça en aidant, parce que le système coopératif c'est aussi d'aider, de partager, donc d'éviter ça. On a su passer ça, mais c'est aussi...
C'est-à-dire aider et partager? Enfin, vous renflouez pas la caisse du voisin?
Non, il n'y a pas d'actionnaire chez Orpi, vous savez, moi je suis un président de réseau, mais en étant aussi un agent immobilier, un associé du réseau. Donc en fait, on a préféré utiliser nos fonds pour former, pour aider, plutôt que de faire une convention, tout bêtement, ou des événements festifs. On a mis de l'argent pour suivre des protocoles, pour aider des agences en difficulté, parce que au-delà des agences, vous avez des femmes et des hommes qui travaillent localement, qui ont un savoir-faire et qu'il ne faut pas perdre. Donc, il faut pouvoir passer les caps. Et dans ces moments difficiles qu'on a traversés, parce que ça fait 32 ans que je fais ce métier, on n'a pas connu aussi fort depuis quand même assez longtemps. Donc 2023 très dur et 2024 a très mal commencé et c'est mieux terminé. On termine avec plus 12% de compromis quand même.
Donc le quatrième trimestre vous laisse espérer peut-être une année 2025 meilleure.
Oui, mais alors je parlerai d'éclaircie maintenant. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même un contexte économique, politique, géopolitique très lourd. On est très dépendant en fait de ce qui se passe. Quand une grosse boîte ferme dans une ville, ça a des impacts. Quand le prix de l'énergie augmente et que Michelin ferme des boîtes, ça a un impact sur des villes. Donc on est très dépendant de ce qui se passe, mais on s'accroche. En habitude, la coopérative va avoir 60 ans, donc on a déjà passé des caps comme ça.
Vous attendez à de nouvelles fermetures d'agences cette année?
On espère que non. On sait qu'il y a le niveau de liquidation judiciaire a baissé tout de même. Le dernier trimestre nous a laissé entrevoir une éclaircie. Donc, on espère que le plus dur est passé.
Vous aidez 80 agences en difficulté en ce moment.
Oui, oui, on en a perdu une centaine, mais on a sauvé quand même plus de 80 agences parce que c'est un accompagnement au quotidien. Parce qu'encore une fois, j'insiste bien là-dessus, vous avez des femmes, des hommes qui travaillent dans les agences et qui ont une connaissance. Et si vous perdez cette connaissance, vous perdez une grosse valeur.
Les taux de l'immobilier ont baissé, Guillaume Martineau, ces derniers mois. Comment est-ce qu'on explique cette baisse des transactions et ces difficultés économiques? Normalement, une baisse des taux, ça doit inciter à davantage de transactions.
Oui, mais c'est un gros paquebot, l'immobilier. Ça vous bougez pas ça du jour au lendemain. Donc, on était passé de 2022 avec 1 275 000 transactions historiques, c'est jamais arrivé. Des taux d'intérêt très bas, 1%. Et on était monté à plus de 4, ça s'est stabilisé. La BCE a fait ce qu'il fallait. L'inflation aussi s'est stabilisée.
Oui.
On a eu plusieurs phénomènes. La baisse des prix, on a réussi au bout de 2 ans à faire écouter un peu nos vendeurs qui n'écoutaient pas forcément toujours. Donc,
pour qu'ils baissent leurs prix ?
Ben pour qu'ils baissent leur prix, qu'ils corrigent, parce que c'était monté à un niveau stratosphérique. Et aujourd'hui, vous savez, c'est un peu comme un match de tennis, que ce soit pour la vente ou la location, il faut 2 joueurs. Un vendeur, un acquéreur, un propriétaire, un bailleur. Et s'il en manque un, vous ne pouvez pas jouer.
Donc un contexte qui paraissait favorable, qu'est-ce qui s'est passé ?
Quand ? À partir de quand ?
Les taux baissent, on peut se dire que l'année 2024 aurait dû être...
Eh bien, elle s'est terminée mieux, puisque justement, début d'année, on débute l'année en janvier à moins 19%, donc là, je me dis que l'année va être très dure. Tout au long de l'année, les taux se stabilisent, l'inflation n'est plus un sujet, les prix ont baissé, donc ce qui permet en fin d'année de rattraper ce mauvais début d'année.
La dissolution, le contexte politique, ça a été l'événement majeur pour vous l'an dernier ?
Ça a joué.
C'était la cause majeure ?
Ça a été une des causes, mais on a été très surpris de voir qu'après cette dissolution, il y a eu un rebond tout de même septembre, octobre, novembre. Après, ce qui nous pénalise très fortement, c'est l'instabilité politique, l'instabilité fiscale. Moi, j'entame ma 4e année de présidence d'Orpi, j'en suis à mon 4e ministre du logement. C'est-à-dire que vous naviguez sans cap, sans visibilité. Ça change au gré des gouvernements, donc c'est très difficile.
Mais ça dépend vraiment des mesures ou bien c'est un peu psychologique? C'est-à-dire les gens voient que Michel Barnier est renversé, dans les jours qui suivent, vous vous rendez compte que l'activité baisse. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Pas aussi simple, mais ça va très vite. La perception des annonces faites par les politiques est souvent problématique. Quand on vous dit que on va taxer la résidence principale ou la plus-value, c'est pas forcément la résidence principale qui va être taxée comme ça, sauf que nos concitoyens comprennent tout de suite, ça y est, on va taxer plus. Donc en fait, les effets d'annonces sont terribles et le temps qu'on corrige, le temps qu'on explique pourquoi il ne va pas se passer forcément ça, il faut un temps long, les médias expliquent, reprennent, donc ça descend plus vite que ça remonte. Donc là, ça a l'air de remonter, il faut maintenir la politique de réduction des prix.
Est-ce que vous réduisez aussi vos frais pour inciter les acheteurs à...
Alors nous, on parle d'honoraires parce que c'est un travail. Les honoraires d'agence, quand vous allez chez le médecin, vous payez des honoraires. Ben, chez un agent immobilier, je sais, ça peut faire sourire, mais c'est tout de même... Vous savez, ce sont encore une fois des gens qui travaillent, des entreprises. Donc, bien sûr qu'on s'ajuste. On ajuste aussi... On essaye de faire comprendre à nos vendeurs que plus... il faut que ça soit...
Ça veut dire que vos honoraires ont baissé l'an dernier ?
Nos honoraires ont baissé aussi. Les prix baissent, donc c'est proportionnel. Vous baissez aussi vos prix, mais on n'a jamais loupé une vente pour un problème d'honoraires. Je crois que celui qui...
Donc en pourcentage, vous n'avez pas bougé vos honoraires, c'est ça que je comprends.
Vous ne pouvez pas, vous tenez un barème, parce qu'il y a la DGCCRF qui nous impose aussi de respecter nos barèmes, on est très contrôlés, mais par contre, on sait s'adapter.
Si vous voulez baisser vos honoraires, vous devez pouvoir le faire.
On peut le faire,
mais
on le fait, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'on évolue, mais encore une fois, il faut tout part d'une bonne estimation. Plus vous êtes au prix, plus vous avez une chance de réaliser le projet du vendeur rapidement.
Marie nous appelle d'Orléans. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes vendeuse, si je comprends bien.
Oui. Nous vendons une maison, elle a été classée entre F et E, et pour accéder
diagnostic énergétique.
Exactement. Pour la catégorie D, il faudrait qu'on fasse des travaux qui sont estimés à 15 000 euros.
Mmh.
Et notre agent immobilier nous conseille de vendre la maison en l'état, donc il faudra faire un devis complet pour passer à la catégorie B, parce qu'il nous explique que les acheteurs privilégient un prix plus bas à une performance énergétique plus haute. Donc je voulais savoir si c'était un bon conseil.
Merci Marie pour cette question. Guillaume Martineau, est-ce qu'il faut faire les travaux avant la vente ou bien laisser les futurs acheteurs faire les travaux?
Je crois que si vous pouvez faire des travaux, ça ne peut qu'améliorer la note énergétique, donc effectivement tenir votre prix. Si vraiment les travaux sont trop importants et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le récupérer, alors il faudra vendre en l'état. Ça, c'est un des problèmes qu'on traverse depuis quelques temps et qui se répercute très fort sur la location. C'est tous les problèmes de passoires énergétiques, de classement Et souvent, nos vendeurs, comme Marie, n'ont pas toujours l'entreprise pour le faire ou les capacités de le faire en temps réel. Donc ça, c'est un des soucis.
C'est-à-dire que ça bloque pour ceux qui veulent faire des travaux, ça peut être dissuasif. Et aussi, ça a retiré des biens du marché.
Oui, ça retire des biens du marché. Nous, on a à peu près 20% des biens qui ont été retirés de la location à cause de ça. Vous avez des gens qui mettent en vente parce qu'ils ne peuvent pas suivre. En fait, moi, je pense que cette loi climat et résilience, parce que c'est de ça dont parle Marie avec les travaux, a du sens. Et on voit d'ailleurs hier aux États-Unis ce retrait de l'énergie des accords de Paris. Et moi, je pense qu'au contraire, ici, on doit maintenir cette loi climat et résilience. Cependant, c'est difficile à mettre en place. Et nos propriétaires, qu'ils soient vendeurs ou bailleurs, ont du mal à pouvoir financer ça, parce que ça demande beaucoup de travaux. Il faut aussi trouver les bonnes entreprises.
Donc, vous voyez que l'État a plutôt tendance, et le gouvernement, à vouloir restreindre les budgets.
Ben oui, parce que vous avez vu que MaPrimeRénov' va encore baisser.
C'est ça.
En fait, le logement n'est pas soutenu. Donc, on nous demande de courir un sprint avec des chaînes aux pieds. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de travaux, beaucoup de choses, mais on n'aide pas les propriétaires.
Marianne est en ligne avec nous, de Verdun. Bonjour Marianne.
Bonjour, Verdun-sur-le-Doubs.
Ah, Verdun-sur-le-Doubs, donc pas dans la Meuse.
Non, pas dans la Meuse, dans la Saône-et-Loire.
Merci de cette précision, Marianne. On parlait des États-Unis avec Guillaume Martineau, je crois que c'est le thème de votre question.
Oui, on sait que l'abominable Trump a été élu et qu'il risque d'y avoir de l'inflation. Et moi, ma question à moi, c'est, pensez-vous que l'immobilier va avancer à nouveau, remonter à nouveau. Est-ce que les taux d'intérêt vont monter ou pas?
Merci Marianne pour cette question. Guillaume Martineau, là encore, est-ce que des acheteurs, des vendeurs, en suivant l'actualité internationale, se disent « bon, bah, je vais peut-être attendre, peut-être reporter mon projet, compte tenu de ce qui se passe, y compris à des milliers de kilomètres aux États-Unis »
Ce qui est sûr, c'est que Marianne a raison, c'est que les conséquences de ce qui se passe à l'étranger influent sur le marché local. Je parlais tout à l'heure de... Prenez une ville comme Cholet, où Michelin a fermé une de ses entreprises dernièrement parce que les coûts de l'énergie sont supérieurs et que ça coûte moins cher d'acheter des pneus chinois que des pneus réchappés français. Ça veut dire que ces conséquences, ces barrières douanières, tout ce qui va se passer, ça vient taper sur le marché immobilier local. Donc, il faut surveiller ce qui se passe. Après, reporter, non, je ne crois pas. Je crois que quand vous avez un projet, si vous êtes au prix du marché, vous le vendrez. Mais effectivement, il faut surveiller ce qui se passe. Les taux d'intérêt, ça joue.
Alors, on a eu une vendeuse tout à l'heure en ligne, c'est Marie. Mais vous avez aussi parlé de la location. Les transactions ont fortement baissé, hein, ouais. Moins 30% entre 2021 et 2024. L'offre locative s'est effondrée. On a atteint le plus bas, là, Guillaume Martineau. On y est continuer à avoir autant de mal à se loger? Je parle pour tous ceux qui louent.
Moi, je pense qu'on va continuer à avoir autant de mal parce qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cap sur ce logement-là. Et le problème, c'est que si vous dissuadez les propriétaires, les investisseurs, parce qu'on les regarde toujours sur un prisme très péjoratif, mais l'investisseur qui achète pour mettre en location, si on le dissuade, alors vous avez cette tension. Et là, franchement, à force d'en parler, on a l'impression de prêcher dans le désert, mais c'est un vrai sujet. On a un vrai problème pour loger les gens, les familles qui divorcent, ou les célibataires, ou les jeunes. Ça devient de plus en plus compliqué. Toutes ces impositions sur les travaux sont bonnes sur le principe, mais si on n'aide pas un investisseur comme Marie tout à l'heure à faire ses travaux, c'est difficile. Donc pour moi, c'est le plus gros problème.
Mais vous parlez des propriétaires, des investisseurs, vous êtes installé à Cap-Breton dans les Landes, ça veut dire que vous discutez avec des propriétaires qui vous disent « Monsieur Martineau, moi j'hésite quand même à mettre mon bien en location ».
Mais oui, parce qu'on favorise l'investissement saisonnier, on favorise les investissements de courte durée, Airbnb, on n'a là aussi pas de visibilité. Puisque...
Alors vous, région extrêmement touristique.
Voilà, mais vous l'avez aussi à Limoges, j'ai appris que mes confrères de Limoges louaient beaucoup en Airbnb, donc ça veut dire, enfin il y avait un gros marché. En fait, on empêche un propriétaire de pouvoir récupérer son bien à peu près quand il vaut. Alors, il faut aussi protéger le locataire. Et je crois que depuis des années, on oppose l'un aux autres. Et ce qu'il faut, c'est un statut du bailleur privé. C'est-à-dire qu'il faut aider des propriétaires à pouvoir se dire « je mets en location, je peux récupérer mon logement en prévenant à l'avance et en faisant ce qu'il faut, si j'en ai besoin ». Mais l'investissement de courte durée, la France ne vit pas en vacances en permanence. Donc... Mais là, vous voyez, on a vraiment un très très gros problème qui n'est pas résolu. Tout le monde botte en touche. 4 ministres en 3 ans et on n'a toujours pas de solution.
Donc, pour revenir à votre cas dans les Landes, ça veut dire des gens qui ont des appartements ou des maisons et qui préfèrent les louer une partie de l'année.
Tout à fait, voilà. Qui veulent le récupérer l'été parce que, bon, bah forcément, ou alors le louer parce que c'est plus rentable l'été qu'autre chose. Mais ça, c'est dommage parce qu'on a des tas de Landais, de jeunes qui viennent habiter dans le coin, d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver du personnel parce qu'elles n'arrivent pas à loger les gens. Donc, c'est un vrai problème de société. ça touche tout le monde. Quelle que soit votre couleur politique, vous devez vous loger.
Dans son discours de politique générale, le Premier ministre François Bayrou a annoncé que le PTZ, le prêt à taux zéro, serait étendu au logement neuf dans toute la France. Il est aujourd'hui réservé aux primo-accédants pour des appartements neufs et en zone tendue, c'est-à-dire les zones où il y a des très fortes demandes. Étendue, mais jusqu'où? C'est un peu la question qu'on se pose. Guillaume Martineau, est-ce que vous avez pu, depuis le discours, la déclaration de politique générale du Premier ministre, avoir un petit peu plus d'informations?
Non, très honnêtement, vous voyez, si j'en sais pas beaucoup plus que vous, parce qu'on vit au gré des informations. Donc, mais si c'est étendu, ça aidera, parce que le logement neuf est sinistré. S'il n'y a pas de logement neuf, il n'y a pas de mise sur le marché de location. Donc... Mais si le Premier ministre le dit, eh ben j'en accepte l'augure, parce que franchement, on a besoin d'une stabilité. Ce qui manque, et ce qui perturbe tout le monde, c'est le manque de stabilité.
Il nous reste une minute pour accueillir Xavier. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Département dans lequel, là aussi, il y a des tensions sur le marché de l'immobilier, c'est le Morbihan. Allez-y Xavier, on vous écoute.
Exact, j'ai une question assez précise. Je suis en train de vendre mon logement. Et je me pose la question du portage de prêts immobiliers. J'ai entendu dire qu'en 2024, on devait rendre cette possibilité-là obligatoire par les banques de pouvoir... Moi, j'ai déjà un prêt. Je vais peut-être le rompre, peut-être être obligé de le rompre. Et je sais qu'il était possible à un moment, en tout cas, la discussion était en cours, pour pouvoir transférer un prêt immobilier d'un bien sur un autre. J'aimerais savoir où on en est.
Merci Xavier pour cette question. Guillaume Martineau, vous nous rappelez ce qu'est le... portage.
Eh bien, en gros, vous avez emprunté à 1%, vous devez vendre comme vous aviez quitté le Morbihan et aller à un autre endroit, vous avez encore un prêt qui dure et vous voudriez pouvoir continuer à avoir votre taux de 1%.
Ah oui.
Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est quelque chose, effectivement, qui a été demandé. On pense que ça serait une mesure intelligente parce que ça permettrait de ne pas bloquer le marché. Parce que sinon, des gens comme Xavier vont se dire « je ne vends pas parce que j'avais un taux à 1% et aujourd'hui, je vais être à 3,30 ouais. ». Donc, ça serait une chose. Mais ça, là-dessus, il n'y a pas d'avancée. On en parle, on en entend parler, mais il n'y a pas de mouvement. Donc, il n'y a pas de... Aujourd'hui, à ma connaissance, vous ne pouvez pas le faire tout de suite.
Merci Guillaume Martineau d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions des auditeurs et des auditrices de France Inter aujourd'hui. PDG d'Orpi France. Merci à vous. 13h45 sur Inter. Avant de lancer le deuxième épisode de notre feuilleton, je voudrais vous rappeler ce chiffre. Les jeunes de 7 à 19 ans passent en moyenne 3h11 sur les écrans chaque jour. Et cela a des conséquences sur leur concentration et sur leur santé. Alors depuis le début de l'année scolaire, plus de 50 000 élèves expérimentent la pause numérique. Interdiction pour eux d'avoir leur téléphone portable en classe. Il doit être rangé dans une boîte ou dans un casier. 200 établissements dans cette expérimentation, dont le collège du Mont d'Or à Saint-Thierry. Nous sommes au nord de Reims. Aujourd'hui, Victor Vasseur, notre reporter, pose cette question aux élèves. Mais pourquoi passez-vous autant de temps sur votre portable?
En fait, on est un peu accro parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, même si on devrait. Genre moi, je sais que je commence vers 20h. Et ouais, 22h, 20h, et après, puis 23h et tout, et j'arrive pas à m'arrêter.
Jusqu'à quelle heure?
Ça peut aller des fois jusqu'à 2h, 3h, mais... En ce moment, je me calme parce que...
Ouais, moi aussi, en ce moment, 21h, je dors parce qu'avec le sport et tout, je fais plus d'heures que d'habitude
la
et je suis fatiguée.
La quatrième, c'est plus dur. Enfin, c'est pas plus dur, mais plus d'heures avec le sport et tout, plus d'heures.
Ouais.
Le matin, en se réveillant, c'est dur, mais après
faut arriver au collège, ça va.
Une fois qu'on est avec tous les potes, tous les amis et tout, franchement, ça va.
Mais les parents le savent que vous êtes sur votre téléphone jusqu'à 7h?
Après, ça dépend s'ils montent dans ma chambre ou pas, mais généralement, non, donc ils ne le savent pas. On passe un peu notre vie dessus, on répond aux potes. On envoie des messages, on appelle des fois, parce qu'il y a des potins à se dire.
Mais qui peuvent pas attendre le lendemain matin à l'école?
Non, c'est trop.
Quand on appelle shopping, il faut envoyer une vidéo, c'est obligé.
Puis on va pas le temps passer. En fait, on se dit, on reste encore 5 minutes.
Et après, on va dormir, mais au final, on dort pas.
Du coup, on retourne sur le téléphone, et puis Ça continue, jusqu'à temps que les yeux se ferment, quoi.
Je m'appelle Naïm, j'ai 11 ans et je suis en 6ème C.
T'as un téléphone portable, Naïm?
Oui, j'en ai un.
Il est où, là?
Il est dans mon sac, dans mon casier.
Il te manque?
Un peu, quand même.
Naïm, t'as 11 ans et pourtant t'as Instagram, t'as Snapchat, t'as TikTok, mais normalement, c'est interdit.
Bah oui, je sais, mes parents, ils sont assez cool et ils veulent bien me laisser avoir ces applis. En fait, je suis connectée avec le compte de ma mère, donc il peut pas y avoir des trucs bizarres. Des vidéos d'armes, de... bah oui, des vidéos dénudées, de tout ça, y a pas... En plus, en fait, quand on lance l'application, on peut choisir les thèmes qu'on veut des vidéos, et moi j'ai choisi le sport.
Donc tu vois quoi?
Bah des vidéos de foot, de boxe, des sports que j'aime.
tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone hors l'école?
C'est possible. Bah si, je regarde la télé aussi, mais TikTok, c'est plus passionnant.
C'est passionnant ou addictif?
Passionnant. Je suis pas accro, mais je passe beaucoup de temps. Non, quand même pas, mais je passe beaucoup de temps dessus, oui, c'est vrai.
Les derniers 3e et 6e pour la cantine. Les derniers 3e et les 6e pour la cantine.
Naïm, est-ce que tu penses que ça peut te gêner à te concentrer, le téléphone portable?
Personnellement, un peu. Mais ça va, j'arrive quand même à me concentrer et j'ai plutôt des bonnes notes.
Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans, je suis en 4A. Je fais toute ma vie dans mon téléphone. Faire mes photos, mes potes.
Mais tes potes, ils sont autour de toi aussi.
Ouais, mais je parle plus sur mon téléphone. Je regarde TikTok, je regarde des films. Je regarde des vidéos, je pars sur Insta, je fais des stories.
Est-ce que tu penses que le téléphone portable peut perturber ta santé?
Bah largement. Le mental, on va dire.
T'as combien de temps d'écran par jour?
8, 9, 10.
Ouais, bah, c'est beaucoup
c'est
quand même.
Ouais, c'est quand même beaucoup.
Ouais, vous trouvez que c'est beaucoup?
Un petit peu quand même.
Oui, c'est beaucoup quand même. Troisième épisode demain, signé Victor Vasseur.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h49. Cyril Petit, du journal Ouest France, nous parle de ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires d'animaux.
Et on file à Rennes en Ille-et-Vilaine dans l'agence de conseil Lunaweb. Ici, parfois, quelqu'un ronfle en réunion et on le laisse faire. Car ce quelqu'un, c'est un chien. Et oui, depuis désormais 12 ans, les salariés peuvent venir travailler avec leur animal à quatre pattes. Les contrats stipulent si les employés autorisent ou non d'être en contact avec les animaux, notamment si des personnes ont peur ou sont allergiques, précise le patron Nicolas Lecam. Un test a lieu pour chaque nouvel animal afin qu'il ne perturbe pas le travail. Exemple raconté à Ouest France, le corgi Octave, qui a tendance à aboyer en début de visio, a été exclu de ces réunions.
Ah oui, c'est sévère. Quel est l'intérêt, Cyril, d'autoriser les salariés à venir travailler avec leur animal?
Eh bien, j'ai demandé à Sébastien Courtin, il est directeur général de Wamiz, un média animalier basé à Paris. Ici, 11 chiens accompagnent régulièrement leur maître et leur maîtresse au bureau. Le responsable raconte, ils sont 2 à 3 chaque jour et on gère ça avec un planning à l'avance, hein, car tous ne s'entendent pas entre eux. Alors, selon lui et d'autres, les avantages sont nombreux. Ça apporte de la bonne humeur et diminue le stress, ça améliore les échanges entre collègues, ça crée un meilleur équilibre vie pro-vie privée, ça lance des conversations et puis, on l'a vu, ça provoque parfois quelques fous rires. C'est aussi un argument pour faire revenir les gens au bureau après le Covid où beaucoup sont restés chez eux et ont pris un animal, poursuit Sébastien Courtin, en amenant son chien, c'est la maison qu'on amène au travail. Tout le contraire du télétravail.
Et c'est une tendance qui s'accélère.
Ça s'appelle, Jérôme, le Pets at Work, animal au travail. Selon le baromètre CSA 2024, les Français et le chien, 40% des sondés souhaitent que les toutous soient plus acceptés sur les lieux de travail, un chiffre qui passe à 53% chez ceux qui ont un chien. Alors, du côté des entreprises, 9% aujourd'hui autorisent leurs salariés à venir travailler avec leurs compagnons contre 7% en 2021. Il y a 9 mois, Marie Gagnepin a cofondé Poilu, une société qui accompagne ces entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses, principalement des grands groupes, dit-elle. À part dans les établissements de santé ou dans la restauration, en respectant hygiène et sécurité, rien n'interdit d'accepter certains animaux au travail, mais ça se prépare avec les salariés, avec les DRH. Aux avantages précités, elle en ajoute un, c'est bon pour l'attractivité de l'entreprise. Et puis, autre témoin, le chien, c'est le nouveau baby-foot, hein, abonde dans le monde. Mylène Berthaud, autrice du livre Toutout paru l'an passé, elle était venue en parler, Jérôme, dans le 13-14 en novembre.
Absolument. Et les entreprises, Cyril, ne sont pas les seules à accepter les animaux au bureau.
Et non, les mairies s'y mettent également. Parmi les précurseurs, Alfortville, Val-de-Marne autorise chiens, chats et certains poissons. Dans les Alpes-Maritimes, Nice a étendu son dispositif chien au bureau à tous les bureaux municipaux métropolitains et ceux du CCAS dès que ceux-ci ne reçoivent pas de public. Environ 20 chiens non dangereux ni agressifs viennent travailler avec leurs propriétaires. Dans le Pas-de-Calais, la mairie de Givenchy en Goëlle vient de lancer un test imitant sa voisine de Vingles, qui a voté une délibération en septembre 2024. Nous sommes 4 agents plus le maire à venir avec notre chien, raconte Colline Sénéchal, la directrice de cabinet. Un code de bonne conduite a été créé, rappelant les règles de vaccination, d'hygiène de vie en commun et des panneaux signalent la présence des animaux. Ainsi, sur la baie vitrée de la salle du conseil municipal municipal. On peut lire ce message. Je fais sûrement la sieste dans cette pièce. Évidemment, Jérôme, celui qui dit ça, lové sur un coussin, c'est un chien.
Voilà, c'est pas un salarié. Mais on peut venir travailler avec son poisson. Ça,
on vraiment, peut aussi, certains
c'est
poissons.
Une, bah oui, c'est une découverte, ça se passe à Alfortville. Merci Cyril Petit pour C'est la France. De C'est la France, ah, c'est une chanson, c'est une comédienne que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier. Elle s'appelle Christelle Reboul.
Connue pour ses rôles récurrents dans les séries télé Ici tout commence ou bien Nos chers voisins, elle est actuellement à l'affiche du théâtre Montparnasse. Dans la pièce Les collectionnistes de François Barluet, et c'est la voix d'Alain Bachung qu'elle a souhaité que l'on écoute. Bachung reprenant une chanson de Leonard Cohen, cette chanson c'est Suzanne. Et pour Christelle Reboul, elle est associée à la naissance de sa fille, Suzanne, c'était en 2013.
Il se trouve que mon accouchement s'est pas très très bien passé à la fin, et j'ai dû avoir une césarienne en urgence. Et c'est le professeur Carbone qui est arrivé dans la salle, tout s'est tu à son arrivée. C'est là qu'il m'a annoncé qu'on allait faire une césarienne. J'ai un peu fondu en larmes. Et puis, la salle d'à côté, c'était la salle d'opération. Et j'ai été ouverte. Suzanne est sortie avec la petite fossette de son papa sur le menton. La sage-femme me l'a tendue. Suzanne m'a tendu sa main, m'a attrapé le nez. Son cri était sublime. Et puis elle a été emportée dans la salle d'à côté pour voir si tout allait bien. Et puis après, il y a le professeur Carbone qui est revenu avec son portable sur lequel était diffusée cette chanson. Il m'a fait cette surprise alors que j'étais en train d'être recousue.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin, et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes.
C'est en 2008 sur l'album Bleu Pétrole qu'est sortie cette version de Suzanne par Alain Bachung, Frédéric.
Et c'est vraiment à cette version qu'est attachée Christelle Reboul, parce que c'est donc cette version qui convoque instantanément le souvenir de son accouchement.
J'ai eu une peur épouvantable, mais en même temps une joie surhumaine en fait. C'est comme une expérience surnaturelle. Et en plus cette chanson qui n'est que ça quoi. Donc il y avait tout qui se mélangeait. Et émotionnellement, c'est la chose la plus bouleversante de ma vie. Ouais.
Ce prénom Suzanne, vous l'avez choisi pour quelle raison ?
Parce qu'avec son papa, qui est Nicolas Vaude...
Comédien,
oui,
comme vous.
Oui, il m'avait mis en scène dans une pièce que j'avais adaptée, enfin un roman de Diderot que j'avais adapté, La Religieuse. Et La Religieuse s'appelle Marie-Suzanne Simonin. Et puis donc, quand on choisissait les prénoms, il me dit « Et pourquoi pas Suzanne ?» Ben, j'ai dit « Non, elle a un destin tragique. La Religieuse, c'était Diderot. » Et puis je me suis ravisée tout de suite. J'ai dit « Mais non, parce que c'est là où on est tombés amoureux tous les deux. »
Sur ce projet.
Sur ce projet. Donc c'est le prénom de notre amour.
Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur.
Suzanne, elle connaît l'histoire de cette chanson, l'histoire de votre accouchement.
Oui, elle connaît tout. Et elle parle du mystère, cette chanson. Elle parle de l'amour, mais d'un amour immortel. Et en fait, je crois que la vie est beaucoup plus simple quand on croit à ça. Quand on croit à cet amour que moi j'ai pu connaître, qui est parti, et qui en fait est toujours là. Mon premier amour, moi, est mort à 27 ans. Et pourtant, je le sens. Et cette chanson, elle est comme la preuve que l'amour ne meurt jamais et qu'il est là encore pour nous aider.
Dans les algues, il y a les rêves des enfants au petit matin.
Donc finalement, cette chanson, elle vous renvoie à la fois à la naissance de Suzanne, votre fille, à votre amour avec le papa de Suzanne, Et elle vous renvoie aussi à votre premier amour,
oui,
qui lui n'est plus là aujourd'hui.
Voilà.
Elle porte tout ça, cette chanson ?
Mais tout à fait, elle porte tout ça. Merci. C'est grâce à vous que je découvre l'ampleur de, des effluves de cette chanson.
Les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.
Suzanne, Alain Bachung, c'était donc Frédéric Le Choix et les confidences de Christelle Reboul.
Christelle Reboul que vous pouvez voir actuellement dans Les Collectionnistes, c'est au Théâtre Montparnasse à Paris.
Version absolument magnifique, merci Frédéric Pommier et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est votre programme aujourd'hui ?
Le monde à l'heure des zoonoses.
Dans la Terre au carré, à tout de suite.